présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Le gouvernement sommé de s'expliquer après l'évacuation musclée d'un camp de migrants hier soir à Paris. Gérald Darmanin demande l'ouverture de plusieurs enquêtes. Parmi les migrants évacués, il y avait de nombreux Afghans, dont certains expulsés par l'Allemagne. Dossier dans ce journal avec Anne Fauquemberg, Pierre Neveu et notre correspondant à Berlin, Ludovic Piétenu. Emmanuel Macron veut alléger les contraintes sanitaires qui pèsent sur les Français. Le président prend la parole ce soir à 20h, mais il n'annoncera pas un déconfinement généralisé. Quant au maire chargé d'appliquer les mesures gouvernementales, il refuse d'être placé devant le fait accompli. La justice ouvre une enquête visant un ministre. Alain Griset, en charge des PME, doit s'expliquer sur un plan épargne en action qu'il n'a pas déclaré à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Aux États-Unis, Donald Trump accepte d'organiser la transition avec Joe Biden, tout en refusant de reconnaître sa défaite. Le président démocrate n'en a cure, il forme son gouvernement en nommant plusieurs femmes à des postes clés. Il y aura des suites judiciaires à l'évacuation musclée d'un campement de migrants hier soir à Paris. Les forces de l'ordre sont très rapidement intervenues pour démanteler ce camp d'environ 500 tentes installées place de la République avec le soutien logistique des associations. Mais la virulence de l'intervention a tout aussi rapidement suscité la polémique. Les multiples images circulant sur les réseaux sociaux montrent des policiers expulsant sans ménagement les migrants de leurs tentes, sans parler des journalistes malmenés par les forces de l'ordre. Anne Fauquemberg, bonsoir.
Bonsoir.
Dès hier soir, Anne, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a évoqué des images choquantes. Il a demandé un rapport au préfet de police de Paris et l'IGPN a également été saisi.
Oui, l'IGPN a été saisi pour des cas de violence présumée et notamment le croche-pied d'un fonctionnaire de police au passage d'un migrant qui tentait de fuir dans le quartier du centre Pompidou à Paris. Une scène filmée par plusieurs journalistes et mise en ligne sur les réseaux sociaux. La police des polices devrait également se saisir du cas du journaliste de Brut, Rémi Buzyn, un journaliste qui a été molesté à plusieurs reprises par un policier selon le média en ligne. L'IGPN a 48 heures pour rendre son rapport. Le préfet de Paris, Didier Lallement, a déjà rendu le sien ce matin, rapport circonstancié au ministre de l'Intérieur. Et pour lui, cette opération aurait été une réussite. Parmi les représentants de la police, toutefois, le secrétaire général du syndicat des commissaires de police, David Lebars, a reconnu sur plusieurs antennes depuis ce matin que ces images nuisent à l'ensemble de l'institution. Et puis en coulisses, des sources policières ont regretté auprès de l'agence France Presse que cette intervention ait été menée par des policiers non spécialistes du maintien de l'ordre. C'est la direction de la sécurité publique de l'agglomération parisienne, la DSPAP, qui a dirigé l'opération. Il y avait certes un escadron de gendarmerie mobile et des CRS, mais aussi des effectifs de la BAC, la brigade anticriminalité, et des compagnies de sécurisation et d'intervention, spécialistes également de l'anticriminalité et moins coutumiers de ce type d'intervention.
Anne Fauquemberg, merci. Alors, cette évacuation du camp de migrants de la place de la République est devenue une affaire éminemment politique. La gauche dénonce la dérive sécuritaire du gouvernement, pendant que la droite lui reproche de laisser tomber les policiers en ordonnant de multiples enquêtes. Pierre Neveu, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Le sujet est d'ailleurs arrivé cet après-midi à l'Assemblée lors de la séance des questions au gouvernement.
Et après les réactions vives de la matinée de Jean-Luc Mélenchon demandant le limogeage du préfet de police de Paris à Anne Hidalgo exigeant des explications au ministre cet après-midi dans l'hémicycle, le ton est resté policé. Présent hier soir place de la République, le député insoumis de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, a interpellé le ministre de l'Intérieur.
La police a molesté des élus dont j'étais juste pour nous empêcher de protéger ces gens. La police a frappé des journalistes juste pour les empêcher de dire la vérité. Cela fait 2 ans que les mouvements sociaux sont confrontés à une doctrine qui ne vise plus à maintenir la paix, mais à maintenir l'ordre, votre ordre injuste. Hier soir, vous vous êtes cette fois ému de ces nouvelles images de violences policières. Vous confirmez donc que les images sont utiles, je le note.
Allusion à l'article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale qui encadrerait la diffusion malveillante d'images de forces de l'ordre en intervention et Gérald Darmanin de souligner que les images de la soirée ont justement permis de constater des comportements graves de certains membres des forces de l'ordre.
Est-ce que j'ai pu être choqué par ces images, monsieur le député Coquerel ? La réponse est oui. Dès hier soir, j'ai contacté le préfet de police et je lui ai demandé de me rendre pour ce matin un rapport circonstancié, parce que moi, contrairement à vous, monsieur Coquerel, je ne souhaite pas juger
à la vox populi, mais bien sur des faits.
Gérald Darmanin qui a donc saisi l'inspection générale de la police. Quant au Premier ministre, il s'est abstenu de tout commentaire. Il est juste monté au créneau pour défendre la proposition de loi sur la sécurité globale. Un texte excellent, dit Jean Castex, qui ne remet pas en cause la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Il annonce d'ailleurs saisir le Conseil constitutionnel sur l'article 24 de la proposition de loi. Reste que ce texte ne convainc pas dans les rangs même de la majorité, puisqu'une quarantaine de députés marcheurs devraient s'abstenir lors du vote.
Pierre Neveu, merci. À l'instant, d'ailleurs, l'Assemblée nationale vient de donner un premier feu vert à cette proposition de loi controversée sur la sécurité globale. Résultat du vote, 388 voix pour, 104 contre et 66 abstentions. Alors, la plupart des migrants expulsés hier soir étaient afghans. Ils sont plusieurs centaines aujourd'hui à Paris, condamnés à l'errance, faute d'hébergement. Et certains de ces Afghans viennent d'Allemagne, où ils ont d'ailleurs reçu une formation. Ils ont en fait rejoint la France après avoir été expulsés par les autorités allemandes. Ludovic Piétenu nous appelle de Berlin.
L'Allemagne accorde de moins en moins l'asile. On est loin des niveaux inédits de 2015, surtout 2016, avec 722 000 demandes acceptées, l'époque du Wirtschaftswunder d'Angela Merkel. En 2017, le chiffre chute à moins de 200 000, 160 000 l'année suivante, 142 000 en 2019, et cette année 2020 devrait se terminer autour des 100 000. Le pays considère qu'il lui faut d'abord intégrer les populations qu'il a accueillies. L'Allemagne continue néanmoins de le faire, car ces chiffres seuls ne veulent pas dire grand-chose. Il faut savoir combien de personnes ont fait une demande et combien ont été acceptés. En moyenne, l'issue est positive pour 35 à 40% d'entre eux. Ce taux inclut ceux que l'Allemagne s'interdit d'elle-même de reconduire à la frontière, même après une demande d'asile rejetée. C'est ce qu'on appelle la protection subsidiaire. Et nombreux sont ceux qui en bénéficient parmi ceux qui constituent les principaux demandeurs, les Syriens, les Irakiens ou les Afghans, étant donné la situation dans ces pays. Quand il y a interdiction d'expulsion, le migrant a le droit d'accéder au marché du travail allemand et de suivre une formation. La protection est accordée pour un an, elle peut être prolongée une fois pour deux ans supplémentaires, si bien que ce droit à la protection est arrivé à son terme pour beaucoup des demandeurs de 2016, 2017, 2018, les poussant à quitter l'Allemagne pour éviter l'expulsion vers leur pays d'origine.
Ludovic Piétenu, notre correspondant en Allemagne. 20h ce soir, Emmanuel Macron prendra la parole pour donner des perspectives aux Français. Il est peu probable que le président évoque un déconfinement, car le mot est devenu presque tabou depuis l'échec relatif du premier déconfinement au printemps. En revanche, il sera question d'un allègement des contraintes sanitaires. Les commerces dits non essentiels pourraient rouvrir rapidement et les déplacements pourraient être moins encadrés pendant les fêtes. Toutes ces décisions sont du ressort du gouvernement, mais de nombreux maires qui devront les appliqués refusent d'être placés devant le fait accompli, Thomas Giraudeau.
Ils sont les premiers exécutants, mais loin d'être les premiers au courant de nouvelles mesures de confinement ou de déconfinement. À la question de savoir ce qu'il attendait donc de l'allocution de ce soir, le président LR de l'Association des maires de France et spectateur, François Baroin, s'adresse directement aux journalistes.
Les maires ont souvent appris par vous-même des mesures qui concernaient leur territoire. Vous, la presse, vous êtes mieux informés que les maires.
Pour lui, les édiles qui ont publié fin octobre des arrêtés municipaux de réouverture des petits commerces ont ainsi agi en lanceurs d'alerte, dénonçant le manque de temps pour appliquer les mesures et de discussions entre l'exécutif et les élus de terrain avant la prise de décision. Décision unilatérale et indifférenciée, quel que soit le territoire. Il faut au contraire des adaptations locales pour François Baroin.
On souhaite une territorialisation de l'ouverture des commerces où rue par rue que nous connaissons, l'organisation du porte-à-porte, les rendez-vous, la porte a été fermée. Nous avons relancé il y a 15 jours, la porte a à nouveau été fermée. À quelques heures de l'intervention du président de la République, nous le sollicitons à nouveau.
En espérant cette fois-ci être partie prenante, la maire PS de Paris, Anne Hidalgo.
Il est essentiel que les élus locaux aient le pouvoir aussi de décider. Évidemment que les solutions pour combattre une épidémie ne peuvent pas être les mêmes dans une ville de 2 200 000 habitants comme Paris et dans d'autres communes, des départements plus ruraux.
En fait, revenir à la méthode brandie par Jean Castex depuis son arrivée à Matignon, mais oubliée depuis quelques semaines, celle d'une plus grande liberté laissée au territoire.
Thomas Giraudeau, merci. Cette crise sanitaire a littéralement laminé le secteur aérien. Le chiffre d'affaires des compagnies va s'effondrer de 60% en 2020. Chiffre communiqué aujourd'hui par l'Association internationale du transport aérien. Réunie en Assemblée générale aux Pays-Bas, l'IATA estime que seuls des tests de dépistage systématique au pied des avions pourront relancer le secteur. Précisons que l'association regroupe 290 compagnies aériennes. Angélique Boin.
En 2020, ces compagnies disent avoir réduit de 46% leurs coûts, mais avec des recettes qui ont fondu de plus de 60%. Les avions étaient vides. On a compté 1,8 milliard de passagers dans le ciel, autant qu'en 2003, il y a 16 ans, contre 4,5 milliards l'an dernier. Le transport de marchandises, en revanche, a explosé et le secteur espère bien que cela va continuer avec l'acheminement des vaccins. Mais cela ne suffira pas à combler les trous financiers. L'IATA prévoit des pertes nettes de près de 120 milliards de dollars pour le secteur cette année. Le soutien des gouvernements a certes permis de survivre, mais il faudra davantage, selon le président de l'organisation, Alexandre de Juniac, qui qualifie la crise de dévastatrice. Seule la réouverture rapide des frontières, sans mesure de quarantaine, peut relancer le secteur, dit-il. Et pour cela, il faut généraliser les tests de dépistage rapide. Et pour convaincre les gouvernements, l'IATA affirme sur la foi d'une étude interne que si les tests étaient généralisés au départ des vols, le risque de voir un passager contaminé à bord serait de 0,06%. Seuls 12 cas positifs sur 20 000 passagers, selon l'organisation, ne serait pas dépisté.
Angélique Bouin et Alexandre de Juniac, le président de l'IATA, sera l'invité de notre journal de midi et demi demain, mercredi. L'Union européenne a signé un contrat de vaccin avec la société américaine Moderna. Le contrat porte sur la fourniture de 160 millions de doses à l'UE. Moderna avait annoncé la semaine dernière avoir mis au point un vaccin efficace à 94,5% contre la Covid-19. Un ministre du gouvernement Castex est ce soir dans le collimateur de la justice. Les parquets de Lille et de Paris ont ouvert une enquête visant Alain Griset en charge des PME. Au cœur de cette enquête, un plan épargne en action qui n'aurait pas été déclaré à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, la HATVP, a signalé les faits à la justice en évoquant un possible abus de confiance. Isabelle Raymond, le ministre, parle de maladresse.
Alain Griset, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, reconnaît d'ailleurs volontiers toute l'histoire. Sans doute une maladresse, dit-il. Le ministre délégué au PME n'a effectivement pas déclaré à la Haute Autorité ce PEA qui contenait jusqu'à il y a quelques jours encore de l'argent qui ne lui appartenait pas. Le fruit de la vente d'une société réalisée par une structure qu'il présidait jusqu'à son entrée à Bercy. Cet été, la Confédération Nationale de l'Artisanat et des Services du Nord, 130 000 euros placés sur son PEA donc, avec l'accord du bureau de la structure. Alors pourquoi avoir fait ça? Pour faire fructifier l'argent, explique-t-il. Pourquoi ne pas l'avoir déclaré à la Haute Autorité? Parce que l'argent ne lui appartenait pas, justifie Alain Griset, qui ne savait pas quel montant déclarer, puisqu'il ne savait pas combien il avait rapporté. Aujourd'hui, il sait donc 130 000 euros plus 19 200 euros de plus-value. Alain Griset a tout reversé sur le compte de la Confédération Nationale de l'Artisanat et des Services du Nord. Je n'ai pas dépensé un centime, insiste le ministre. La Haute Autorité, elle, considère donc que c'est de l'abus de confiance.
Isabelle Raymond, merci. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique avait été créée en 2013 après le scandale impliquant l'ancien ministre Jérôme Cahuzac. Après le suicide de Christine Renon en septembre 2019 dans son école à Pantin, le ministère de l'Éducation nationale s'était engagé à revaloriser les directrices et directeurs d'école. Une prime de 450 euros doit d'ailleurs être versée à partir de ce mois-ci. Mais pour les syndicats à Kinkasmi, les engagements du ministère ne sont pas à la hauteur des attentes.
Si Jean-Michel Blanquer se dit prêt à créer 600 postes supplémentaires dès la rentrée 2021 afin de décharger les directeurs d'école, en leur octroyant également une enveloppe de 21 millions d'euros sous la forme d'une prime, ce qu'attendent les syndicats, c'est surtout un plan pluriannuel qui aille au-delà de 2021. Car proportionnellement aux 45 000 écoles primaires de France, en moyenne, ces postes supplémentaires ne représenteront que quelques heures de décharge par an pour les directeurs d'école. Stéphane Crochet, secrétaire général du SE UNSA.
Le ministère dit qu'il faut qu'on se projette sur le fait de pouvoir travailler sur plusieurs années, mais rien n'est définitivement acquis. Et la seule chose que nous travaillons, qui est une chose importante, c'est des mesures pour la rentrée 2021. Mais nous, on veut de la visibilité plus importante que ça, parce qu'il faut plusieurs années pour pouvoir construire des réponses à la hauteur des besoins de la direction d'école.
Des directeurs d'école qui précisent aussi qu'avec la crise sanitaire, leur charge de travail a fortement augmenté, alors qu'ils sont déjà au bord de la rupture. Laurent Fman, président du syndicat national des écoles, qui est également directeur d'école dans la région lilloise.
Pour la mise en œuvre du protocole, ils doivent donc travailler en partenariat avec les maires pour accueillir le mieux possible l'enfant sur l'ensemble de la journée, et non pas sur le temps scolaire uniquement. Donc ça nécessite du travail d'organisation, ça nécessite de mettre des moyens en place, ça nécessite des emplois du temps particuliers. Tout ça, c'est chronophage, et puis surtout, ça a été remis en question plusieurs fois, puisque les protocoles ont évolué.
Jean-Michel Blanquer doit rendre ses arbitrages le 7 décembre prochain.
Hakim Kasmi, merci. Le rugby français est en deuil ce soir. L'ancien international Christophe Dominici a été retrouvé mort aujourd'hui dans le parc de Saint-Cloud près de Paris. Selon une source policière, un témoin a vu l'ancien joueur tomber d'un toit sur lequel il était monté. Âgé de 48 ans, Christophe Dominici avait été vice-champion du monde avec le 15 de France en 1999. Après sa retraite sportive, il avait mené une carrière de consultant à la télévision. Aux États-Unis, Donald Trump a enfin accepté hier soir d'enclencher le processus de transition avec Joe Biden, une concession du bout des lèvres du président sortant qui refuse toujours d'accepter sa défaite électorale. Joe Biden, lui, ne perd pas de temps. Il constitue son gouvernement qui sera opérationnel dès le 20 janvier, jour de son investiture à la Maison-Blanche. Le francophone Anthony Blinken sera son secrétaire d'État en charge de la diplomatie américaine. Et puis Bertrand Galichet, Joe Biden a attribué et plusieurs postes clés à des femmes.
Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, une femme devrait occuper le poste de secrétaire au Trésor, l'équivalent de ministre des Finances. À 74 ans, Janet Yellen, ex-enseignante à Berkeley, Harvard et la London School of Economics, a également été sous Barack Obama la première femme présidente de la Fed, la réserve fédérale américaine. Une personnalité respectée par les démocrates comme par les républicains. Autre nomination féminine attendue, celle de Michelle Flournoy à la tête du Pentagone, c'est là aussi une première. La future ministre âgée de 59 ans a mené l'essentiel de sa carrière au sein du département de la Défense. Michelle Flournoy a appris le français en Belgique dans sa jeunesse lors d'une année d'échange au lycée, puis au cours d'un stage en France. Une diplomate afro-américaine de 68 ans, Linda Thomas Greenfield, devrait être nommée ambassadrice aux Nations Unies, poste souvent attribué à une femme. Avril Haines, une avocate de 51 ans, ancienne directrice adjointe de la CIA, devient directrice du renseignement national, ce qui fait d'elle la femme la plus haut placée au sein du renseignement des États-Unis. Au total, 4 postes à haute responsabilité sont donc déjà confiés à des femmes, aux côtés de la vice-présidente Kamala Harris.
Bertrand Galichet, merci. Et pendant ce temps-là, le feuilleton électoral américain continue. La Pennsylvanie a certifié aujourd'hui les résultats du vote et Joe Biden l'a emporté. Les 20 grands électeurs de l'État lui reviennent. Que comprennent les médias américains à la France? C'est le thème de l'émission Le Temps du Débat, à suivre juste après ce journal avec Emmanuel Laurentin. Mais où sont passés les carnets de notes de Charles Darwin? Ils étaient stockés dans la bibliothèque de l'université anglaise de Cambridge, mais ils ont disparu il y a presque 20 ans. Et c'est seulement aujourd'hui que l'université s'est résolue à annoncer qu'ils avaient été dérobés. Les carnets figurent désormais sur la liste d'Interpol des œuvres d'art volées. Élise Delève, Cambridge, lance un appel pour retrouver ces précieux documents.
Il aura fallu 20 ans pour accepter l'impensable. 20 ans pour se faire à l'évidence, les 2 petits carnets de Charles Darwin ont été volés. La dernière trace de ce patrimoine scientifique et historique remonte à septembre 2000. La boîte qui contient les notes, pas plus grande qu'un livre de poche, est sortie de la salle des objets précieux pour être photographiée. 6 mois plus tard, contrôle de routine, les carnets ont disparu. Pendant des années, l'université est persuadée qu'ils ont été mal rangés. La bibliothèque de Cambridge compte des millions de livres, de manuscrits, de cartes, classés sur l'équivalent de 210 km d'étagères. La plus grande recherche de l'histoire de la bibliothèque est lancée, mais 20 ans plus tard, toujours rien. Les 2 carnets introuvables renferment pourtant un trésor scientifique. C'est sur l'un d'eux qu'en 1837, Charles Darwin esquisse l'arbre de vie, le socle de sa théorie de l'évolution. Il le dessine alors qu'il est à bord du navire scientifique le Beagle. Ces carnets sont estimés à plusieurs millions de livres sterling. L'université a décidé de lancer un appel pour retrouver les carnets aujourd'hui, le 24 novembre, date symbolique puisque c'est l'anniversaire de la première publication de l'Origine des espèces, ouvrage majeur de Charles Darwin. Cambridge met en place un mail spécifique pour récolter des témoignages et sur son site ce message « Quelqu'un, quelque part, a sûrement des informations qui pourraient nous aider à remettre ces carnets à leur place dans le cœur de l'héritage culturel et scientifique du Royaume-Uni. »
Élise Delève, merci. Le temps demain, toujours dominé par des conditions anticycloniques. Le soleil s'imposera sur la plupart des régions, sauf sur la Bretagne, le Nord-Ouest et le Languedoc, où les nuages bas pourront donner quelques gouttes. Les températures minimales seront fraîches, de moins 2 à 12 degrés de la moitié est aux régions littorales. L'après-midi, le thermomètre est en hausse, de 8 à 18 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.